Sans détour avec François Beauregard.
De retour, 13h, c'est l'heure de la revue de presse avec Élisane Pellerin. Élisane, bonjour.
Bonjour.
On a fait le tour du monde, virgule, encore une fois, puis il s'en passe des choses.
Oui, il se passe beaucoup de choses à l'international, donc cette semaine. On commence avec United, une compagnie américaine, donc, qui a annoncé avoir équipé une douzaine d'avions de marquage en braille pour les rangées individuelles, les numéros de siège, ainsi qu'à l'extérieur et à l'intérieur des toilettes, et voudrait continuer pour équiper sa flotte principale d'ici 2026. Si on a déjà vu ça, là, pour les consignes dans les livrets de consignes.
C'est vrai.
D'autres avions, de d'autres compagnies d'aviation. C'est la première fois, par contre, au niveau des numéros de siège et des toilettes qu'on peut voir du braille.
Oui. Et ça, c'est précieux parce que on salue United de cette initiative parce que moi, quand on me dit mon siège, c'est le numéro 12, ben là, il faut que j'agrippe 11 dossiers pour me dire que ça doit être le 12e.
Oui, tu comptes ça dans ta tête, puis tu espères ne pas te tromper, effectivement.
Oui, de sauter un siège ou de compter deux fois, puis si quelqu'un me parle, bien, il faut recommencer, mais on ne peut pas recommencer. L'autre chose aussi, c'est dans les toilettes d'avion, hein, c'est plein de gadgets.
Oui.
Hein, il y a l'eau qu'il ne faut pas boire, puis il y a le savon, puis où sont les bonnes serviettes, puis les pas bonnes serviettes, puis qu'est-ce qu'il faut faire où. Une fois, j'étais dans un train, en Suède. Et puis, j'étais sûr que c'était la chasse d'eau de la toilette du train, mais c'était le système d'urgence.
Oh!
Oui, voilà. Alors, un, j'ai pas tiré la chaîne, comme on dit, mais deux, j'ai fait arrêter le train.
Oh, quand même!
Sonner les cloches. Et puis là, rapidement, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, savoir si j'étais encore de ce monde-là. Puis il me parlait juste en suédois, c'était assez gênant.
Oh, quand même!
Ouais, okay. j'ai pas eu le temps de trouver.
Même difficile d'expliquer à ce moment-là.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne signalétique.
Effectivement, c'est une base que les gens qui n'ont pas de problème de vision ne pensent pas, mais effectivement, pour des gens qui ont des problèmes de vision, c'est quand même très intéressant pour l'autonomie.
Alors, je m'excuse de ce petit détour en Suède, là, mais...
Moi, je trouvais ça très amusant.
moi, je trouve ça amusant aujourd'hui quand j'en parle, mais sur le coup,
c'était moins amusant.
C'est autre chose. On retourne en France.
On retourne en France parce que la Cour des comptes a fait un rapport qui a été rendu public, comme quoi l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap âgées de plus de 50 ans constitue un grand phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et que la France n'est pas prête au niveau des services à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap qui sont vieillissantes.
Oui, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a le vieillissement de la population.
Oui.
Et en même temps, ce qui fait que les personnes déjà en situation de handicap vieillissent, mais il y a aussi des personnes qui, à cause de leur âge, développent des limitations.
Effectivement. Et le fait que les personnes en situation de handicap, maintenant, grâce aux progrès médicaux, entre autres, vivent plus longtemps, ça met une pression sur les services publics français et on peut croire dans différents autres pays. Et la Cour des comptes dit que on n'est pas prêt à ça en France et qu'il va falloir réagir et adopter les services parce que on ne sera pas capable de répondre à la demande qui va être de plus en plus grandissante.
Parce que selon la Cour des comptes, pour faire une explication simple, c'est un peu comme le vérificateur général au Canada. C'est l'organisme attaché au gouvernement français qui voit la bonne marche des politiques et à ce que l'argent soit dépensé de la bonne manière. 90% des personnes en situation de handicap vieillissante vivent dans un domicile autonome et sont pour la plupart non accompagnées. Alors, il y a vraiment un besoin... criant d'aide à domicile. Ça, c'est... On peut pas tout institutionnaliser tous ces gens-là, bien que ce serait la solution simple et
c'est la solution simple, mais en même temps, ça coûte cher aussi, l'institutionnalisation.
Oui,
donc,
ça coûte cher, puis c'est pas plaisant.
C'est pas plaisant non plus pour ces gens-là. Effectivement, là, on parle de 9,7 millions de personnes atteintes de limitations motrices, en plus de 3,5 millions de problèmes donc intellectuels ou cognitifs. Il faut aussi penser à ces gens-là hein, qui ont aussi des besoins particuliers qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on parle quand même d'une bonne partie de la population française qui va avoir des besoins qui vont aller en augmentant avec les années qui passent.
Et comme vous le dites, ben si c'est le reflet de la situation en France, on peut penser que c'est partout la même chose dans les autres sociétés où il y a un vieillissement de la population. Déjà en France, on identifie qu'il y a 120 000 places ou 120 000 services d'aide à domicile qui manquent dans leur offre de services.
Oui.
Et ça, évidemment, ce déficit de 120 000 services à domicile, on peut croire que ça va juste aller en augmentant dans le temps. On parle aussi, toujours en France, de la représentation des personnes avec un handicap à la télévision.
Oui, on y va quand même avec une bonne nouvelle. Donc, pour la première fois, la proportion des personnes en situation de handicap a atteint 1% de représentation à la télévision en 2022. 1%, c'est très peu.
Oui, on peut dire « whoopee ».
Oui, voilà. 1%, c'est très peu, mais ça reste une bonne nouvelle parce qu'on a atteint 1%, c'est déjà un début. Par contre, effectivement, on parle du baromètre de la représentation de la société française qui a été publié par l'autorité publique française de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par contre, c'est sûr qu'on parle vraiment ici des handicaps qui sont visibles, hein, bien
oui.
sûr. Donc, on parle d'un pourcent d'handicaps visibles. Effectivement, il y a des handicaps non visibles qui restent quand même très peu connus à la télévision et qui restent très peu représentés.
Et parce que 1, c'est 1, c'est un chiffre peut-être, c'est mieux que 0.8.
Oui, voilà.
Mais le nombre de personnes en situation de handicap de 15 ans et plus en France est estimé à 13% dans les handicaps, je dirais, visibles.
Oui.
Donc, il faudrait ultimement que la représentation des personnes en situation de handicap soit pas de 1, mais de 13%. Puis en plus qu'on inclut les gens qui ont un handicap qui n'est pas... Et comme c'est souvent le cas aussi... ces représentations des personnes en situation de handicap sont plutôt dans les émissions de type dramatique, hein, où c'est un des personnages ou une des personnages de l'émission qui est en situation d'handicap, et beaucoup moins dans les nouvelles ou dans l'actualité ou dans les choses plus...
Dans des programmes de divertissement, effectivement.
Oui, aussi.
On parle de seulement 5% dans des programmes de divertissement. Donc, du 1%, que je m'explique bien, hein, donc du 1%, oui. Il y a seulement 5% qui sont dans des programmes de divertissement, 12% dans des programmes d'information et 71% dans des fictions. Donc, effectivement, on est capable de mettre en scène des personnages avec des situations de handicap, mais quand c'est le temps de mettre d'avoir la vraie vie... On est encore oui. assez peu présent au niveau de la télévision française.
Oui, la vraie vie, puis aussi le talent réel.
Oui, effectivement. Il y a le talent réel, effectivement.
Ça. Là, évidemment, on faudrait creuser encore plus loin sur qui joue le rôle du personnage handicapé. Hein, mais ça...
Oui, mais bon, ça, on pourra en parler la semaine prochaine, François.
Oui, oui, tout à fait, parce que ça, c'est comme un autre département.
Autre débat,
oui. Oui, un autre débat, tout à fait. En France, toujours, on parle de gynécologie.
Oui, on parle de gynécologie. Donc, on parle de anti-gynéco, qui est une nouvelle démarche qui a été mise en place dans les établissements médico-sociaux de l'Île-de-France pour favoriser l'accès aux soins gynécologiques pour des femmes en situation de handicap. Et les femmes en situation de handicap, donc, étaient à 66% n'avaient pas de suivi régulier. Au niveau gynécologique, donc ça causait un problème, bien sûr, au niveau de la santé. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée de anti-gynéco, qui était de mettre sur pied quelque chose qui était beaucoup plus accessible pour les personnes en situation d'handicap, pour les femmes en situation d'handicap, et qui comprennent beaucoup mieux également les besoins et les particularités de ces femmes-là.
Parce qu'on parle là d'une formation... auxquelles vont participer les étudiantes sages-femmes pour voir... Et je me souviens ici, à Sans-Détour, il y a peut-être un an, on avait vu un peu la situation au Québec où il y avait presque des refus tout simplement de traiter en gynécologie des femmes en situation d'handicap parce qu'on n'avait pas les bons équipements ou la table d'examen n'était pas adaptée. Et il y avait vraiment, je dirais, un vide dans la prestation de service, là. Et en fait, puis des fois, ça semblait être plutôt toutes sortes d'excuses juste pour ne pas se donner la peine de le faire de ce côté-là. Et c'était vraiment malheureux à entendre. C'est bien de voir qu'au moins en France, ben là, il y a une, C'est une initiative qui voit combler ce besoin-là.
Et on parle aussi donc de femmes du trouble du spectre de l'autisme, parce que ces femmes-là donc peuvent vivre différents enjeux par rapport aux soins gynécologiques qui ne sont pas particulièrement confortables ni particulièrement accueillants. Donc, on peut s'imaginer que pour quelqu'un qui est atteint du spectre de l'autisme, il peut avoir des défis supplémentaires au niveau des soins qu'elle va recevoir. Et on parle aussi que 9 femmes en situation de trouble du spectre de l'autisme, 9 femmes sur 10 sont victimes de violences intrafamiliales ou institutionnelles.
Exact. Et je dirais, c'est déjà démontré que les femmes en situation d'handicap, tout handicap confondu, sont beaucoup plus sujettes à des abus dans leur milieu ou autrement. Alors, de ne pas en plus avoir accès à des services gynécologiques, c'est encore pire.
Oui, effectivement. Ces femmes-là ont besoin, forcément, s'il y a violence dans leur entourage ou violence dans les institutions, ils ont besoin de médecins et de personnes qui sont aptes à les recevoir et à les aider. Donc, c'est quand même une bonne, un bon projet pour la France qui va encore pallier à un manque au niveau français. Et comme vous le disiez, François, on aurait besoin de ce type de projets ici au Canada, au Québec,
exact.
Et probablement dans beaucoup d'autres pays.
Oui, exactement. Je pense que c'est comme... Enfin, c'est toujours bien de voir une initiative positive parce que le chantier est vaste. La présidente du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique française vient de faire le pont avec le domaine de l'agriculture.
Oui, elle vient de signer une nouvelle entente, donc une convention qui va donner une nouvelle impulsion au recrutement, à l'inclusion et au maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap, parce qu'en agriculture, on a besoin d'employés et que les personnes en situation de handicap, ils ont encore vraiment des portes à ouvrir. Ils sont stigmatisés au niveau de l'agriculture et donc cette nouvelle entente-là veut favoriser non seulement l'accessibilité à l'emploi, donc être capable d'engager des gens qui sont en situation de handicap, mais aussi de maintenir au travail des gens dont la situation de handicap peut dégénérer ou peut avoir de nouveaux besoins avec les années. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de s'adapter aux gens pour ne pas pour qu'ils aient en fait le moins d'impact possible. Si l'handicap évolue ou si un handicap venait à arriver dans la vie de quelqu'un.
Oui, parce que ça peut venir suite à un accident de travail ou simplement, on parlait du vieillissement ou des maladies dégénératives qui peuvent ne pas poser de problème au début, mais qui finissent par en poser. En Bretagne, entre autres, c'est intéressant parce qu'on dirait que en même temps qu'il est question d'une politique nationale en France, on voit des initiatives d'intégration au domaine agricole des personnes en situation de handicap, particulièrement en Bretagne.
Oui, ben un peu dans la même idée. En fait, hein, on a besoin d'employés, on a besoin de maintenir au travail ces employés-là. Et on dit le sujet, l'handicap est encore un sujet très bon dans le milieu agricole parce que le milieu agricole, c'est un milieu qu'on reconnaît comme étant physique. Donc, on pense systématiquement qu'une personne qui est en situation d'handicap ne peut pas faire ce travail-là. Ce qui est faux parce que des fois, il y a
toutes sortes de travaux qui ne sont pas si physiques que ça.
Qui peuvent demander des outils et des adaptations qui sont relativement mineures pour que la personne puisse faire son travail adéquatement et rester sur le marché de l'emploi plutôt que d'en être exclu et à ce moment-là tomber sur des aides d'urgence, par exemple.
Oui, puis surtout, on peut penser dans un milieu rural où il y a encore souvent des situations d'isolement et ainsi de suite, la participation au milieu du travail,
c'est bon pour tout le monde. Favoriser le social de ces gens-là, puis effectivement éviter l'isolement. Et l'isolement est effectivement en lien avec la maladie mentale et avec l'appauvrissement des maladies donc physiques. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas correctement socialisé va avoir plus de problèmes au niveau physique et plus de problèmes au niveau psychologique.
Exact.
Parce qu'il manque de socialisation. Donc, le fait de les garder au travail, non seulement donne des employés au milieu agricole qui en a bien besoin, mais va aussi pallier à différents soins qui pourrait avoir lieu suite à une déclinaison de la santé de ces gens-là.
Et parce qu'au final, ça revient toujours à la charge de la société de prendre soin de gens qui pourraient ne pas être dans cette situation-là si, au départ, ils avaient été mieux entourés.
Il faut éviter au mieux et prévenir, parce qu'effectivement, malheureusement, ces personnes-là, au bout de la ligne, coûtent cher à la société, mais de faire des ajustements et de mieux prévenir pour les garder sur le milieu du travail et éviter tous les problèmes qui vont s'en suivre si on les sort du marché. À ce moment-là, ça peut coûter beaucoup moins cher, voire très peu, et être assez simple au final.
Tout à fait. C'est une sorte de prévention sociétale, on va dire ça comme ça.
Et agricole.
Et agricole, oui. Alors, toujours en Bretagne, il y a des initiatives dans le domaine de l'aviation où on voit l'accessibilité des aéroports régionaux. On pense pas à ça, là, mais ça fait partie aussi de l'adaptation au transport. On en parlait tout à l'heure avec United. Il y a des façons de changer le regard que les gens portent dans les aéroports en Bretagne. Donc, il y a eu une campagne à ce sujet-là. On a l'impression qu'en Bretagne, en tout cas, les choses bougent.
Oui, effectivement, hein? La Bretagne qui sont assez avancées, du moins cette semaine. Donc, EDIS, qui est gérant d'aéroport de Lorient-Bretagne-Sud, qui s'engage sur un fonds sur 3 ans en soutien au projet innovant porté par le Centre multiaïste de Kerpop. Le Centre multiaïste de Kerpop, qui est un centre social pour les personnes en situation d'handicap. Donc, EDIS qui veulent mettre de l'avant la santé sur 16 aéroports. Ils veulent agir aussi pour des projets innovants pour améliorer l'accessibilité aux soins et l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, comme on parlait tout à l'heure, François. Et donc, on a pour objectif de faciliter le développement des activités du centre Kerpop et en particulier des actions en matière de financement pour avoir une meilleure visibilité pour les personnes en situation de handicap et changer, vous l'avez dit, le regard qu'on porte sur ces gens-là.
Tout à fait. Et c'est curieux, moi, en tout cas, de mémoire, ce n'est pas la première fois qu'on parle de la Bretagne dans des efforts d'inclusion. On va revenir après la pause, puis on va se parler de ce qui se passe ici. Ah, de retour, Élisane, maintenant, on se retrouve chez nous, puis... Il y avait des articles intéressants, entre autres, qui mettaient en question tout le programme, tout le filet social au Québec destiné aux personnes en situation d'handicap ou en situation, je dirais, socio-économique faible.
Oui, donc on remet en question le plan de lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec parce que il serait donc mal... mal adapté à la réalité actuelle des personnes en situation de pauvreté, d'une part, mais aussi des personnes en situation de handicap, parce que ils font quand même partie, malheureusement, des personnes en situation de pauvreté à cause, entre autres, du manque d'insertion au niveau de l'emploi, pour ne nommer que ça.
Parce que il y a eu des mesures qui ont été... annoncé, il n'y a pas, je pense, ça fait l'automne dernier, on parlait du nouveau programme de revenus de base qui misait sur une approche plus flexible, mais il y a encore des obstacles, si je peux dire.
Oui, mais en fait, le revenu de base qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, donc à la mesure du panier de consommation, donc MPC, qui est indicateur officiel du seuil de pauvreté au Canada. Donc, on parle que, par exemple, l'aide sociale couvrirait seulement 47% de cette mesure-là. Donc, on pourrait, avec cette mesure-là, avoir seulement 47%
de ce qui est considéré comme étant le strict minimum.
Oui, voilà, merci. Donc, effectivement, ça ne couvre que 47% du strict minimum, comme vous dites, François, au niveau des besoins de base, donc d'épicerie, de logement. Même chose, donc, au niveau du revenu de solidarité sociale, on parle de 69 % qui serait couvert. Et on parle du revenu de base de 86 %. Donc, c'est un peu mieux, mais on a quand même presque 15 % du strict minimum qui ne peut pas être atteint avec ce revenu-là. Et donc, on garde les gens en situation de pauvreté avec ce type de plan social qui n'est pas adapté à la réalité actuelle, particulièrement alors que les choses coûtent de plus en plus cher, on le sait.
Tout à fait. Oui. Et encore, la mesure du panier de consommation, ça, c'est une façon de définir le seuil de la pauvreté. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, a créé un autre indice qui s'appelle le revenu viable, qui est un peu plus exigeant, la barre est un peu plus haute. Et si on compare les programmes d'aide sociale, de solidarité ou de revenu de base, là, c'est encore pire parce que ces montants-là se retrouvent à 35, 50 % 64 % seulement de ce qui est nécessaire. Alors, tous ces programmes-là n'atteignent pas la cible de sortir les gens de la pauvreté.
Effectivement, garde les gens en situation de pauvreté. Et on a un autre problème, c'est au niveau des critères d'admissibilité de ces programmes-là. Donc, on parle du programme de base qui est très difficile à entrer. Il faut avoir des contraintes sévères à l'emploi. Mais encore faut-il être capable de savoir ce que sont des contraintes sévères à l'emploi. Et on a quand même des définitions qui sont très limitatives et qui ne permettent pas donc à beaucoup de gens qui en auraient besoin d'accéder à ce programme-là d'être de base.
Et souvent, les définitions sont liées à des contraintes permanentes, alors que beaucoup de gens se retrouvent finalement à avoir des contraintes qui peuvent durer quelques années, sont temporaires, mais qu'il faut placer en contexte, où souvent il y a une accumulation de faits qui crée une limitation. Mais le formulaire est trop succinct, est trop noir et blanc, si je peux dire, ce qui fait que l'admissibilité à ces programmes-là est simplement inatteignable.
Et on reproche aussi d'être trop médical, entre guillemets, si vous me permettez, d'ailleurs, où justement on oublie toutes les questions psychosociales au niveau, par exemple, des personnes qui ont des difficultés qui ont besoin d'aide psychologique, par exemple, donc qui sont souvent plus à moyen terme qu'à long terme ou qui ne sont pas des conditions à vie. Mais qu'ils auraient besoin d'aide à ce niveau-là et qu'ils ne peuvent pas y accéder parce que, comme vous le dites, François, le formulaire n'est pas fait pour répondre à ce type de besoin-là. Et quand on n'a pas un diagnostic qui est extrêmement précis et qui est à vie, on ne peut pas nécessairement atteindre ce programme-là dont on aurait besoin, ce qui fait que, finalement, on se retrouve à être pris dans une situation de pauvreté à long terme.
Et enfin, toute cette conversation-là vient justement du site Conversation. C'est un papier de Scott White sur ce site-là qui touche des enjeux, si je peux dire, socio-économiques. Cela dit, on voit qu'à Winnipeg, là aussi, ils ont des enjeux d'accessibilité au transport.
À Winnipeg, effectivement, on a des enjeux d'accessibilité, donc on demande à être plus ferme sur les lois. La consultante au cabinet, Rosalie Best, a demandé donc à avoir des lois canadiennes sur l'accessibilité qui sont plus sévères et donc à être capable de demander aux différentes municipalités et aux services des différentes municipalités de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.
Bon, voilà, ça c'est au Manitoba. On voit que partout dans le monde, les choses sont un peu semblables. C'est pour ça que ça fait du bien de faire le tour, se dire, c'est un combat que partout on mène. Élisane Pellerin, merci. Mathieu Tessier à la régie. Claire Séguin à la recherche tout azimut. Et Claire Guérin. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci.